J'adore l'intro. Christian Page, salut.
Salut Bernard.
Oh! Alors, mesdames et messieurs, on a des sujets vraiment... C'est trippant, c'est trippant. Hitler en fuite.
Oui, écoute.
Hitler en fuite, Christian.
Hitler en fuite, et ce n'est pas la première fois que ce sujet est évoqué, à la fois dans ici à l'émission, mais également dans les médias populaires, cette histoire de la survie d'Hitler au bunker. Alors, rappelons pour l'histoire un peu la version officielle. Oui. Le 30 avril 1945, alors que les Alliés entraient dans Berlin, principalement les troupes russes, oui. Hitler était réfugié avec sa garde rapprochée et sa nouvelle épouse Eva Braun dans un bunker souterrain placé sous la chancellerie. Et là, ils se sont tous les deux suicidés. Ils ont pris une capsule de cyanure et Hitler, lui, s'est tiré une balle en plus. Leur corps...
Ils ont tué le chien aussi.
Oui, ouais, ils ont tué le chien d'Hitler. Ils ont essayé la capsule de cyanure avec le chien d'abord. Et après que le couple se soit suicidé, leurs corps ont été amenés à l'extérieur, placés dans un trou d'obus, arrosés avec du kérosène, et ensuite on a fait brûler les corps. Ça, c'est la version officielle. Ce qui est assez étonnant, c'est que cette version officielle a mis beaucoup de temps à avoir une reconnaissance historique. Staline lui-même, après la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'il y avait des réunions avec Roosevelt, par exemple, il y a une conversation où Roosevelt demande à Staline, est-ce qu'on a la preuve qu'Hitler est mort au bunker? Et Staline avait répondu non. Donc, on voit que toute cette histoire-là, bien sûr, la garde rapprochée d'Hitler disait, c'est comme ça que ça s'est passé. On avait des témoignages, mais on manquait de preuves physiques.
Il y avait un doute. Il y avait un doute parce qu'on n'avait pas retrouvé de corps. C'est
voilà.
Ça, là.
Et ensuite, ouais. Cette histoire-là de doute a rebondi de manière plus ou moins soutenue à travers l'actualité. Et là, c'est un peu ce qui se produit. C'est-à-dire que la CIA, il y a quelques semaines, elles ont rendu public toute une série de documents, comme le font les grands services de renseignement depuis une dizaine d'années maintenant. On prend ces dossiers-là et on les rend publics sur Internet. C'est vrai en Grande-Bretagne, en France et aux États-Unis. Que ce soit la CIA, le FBI, le MI5 ou MI6 en Angleterre ou les services de renseignement français, ils font tous à peu près ça. Mm-hmm. Ces documents-là regroupent un ensemble de sujets. Ils touchent à peu près à tous les sujets. Ça va de l'administration politique à la vente d'armes, en passant par des extraterrestres, à peu près tout ce que tu veux. Et voilà que dans cette série de documents rendus publics par la CIA, on découvre des documents. Il y en a un en particulier qui a retenu l'attention des amateurs. Il date du 3 octobre 1965 et il a été envoyé, c'est un message qui a été envoyé par un bureau du Venezuela au directeur de la CIA qui lui contrôlait la division de l'hémisphère ouest. Et ce document-là est une sorte de témoignage d'un ancien SS, un type qui s'appelait Philippe Citroën. Et ce type, Philippe Citroën, dit que lui, il a travaillé à l'époque au Venezuela et il a côtoyé un individu qui se faisait appeler Adolf Schüttelmayr. Et ce Adolf Schüttelmayr, non seulement ressemblait-il à Hitler, mais au gré de ses conversations, Citroën dit, ce type-là m'a avoué qu'il était finalement Hitler.
Et on parle d'un rapport daté de 65?
De 1955. Ah, 55. 3 octobre 1955. Okay. Okay. Et là, il dit, donc j'ai discuté avec cet homme, il m'a avoué qu'il était Hitler. Et là, il dit qu'il a rencontré cet individu-là à quelques reprises dans une résidence qui s'appelait la résidence coloniale. Il y avait ce type, Adolf Hitler, sa garde rapprochée, donc tous des gens qui avaient apparemment réussi à fuir l'Allemagne au lendemain de la chute du Troisième Reich. Et là, toujours dans ce mémo, il est mentionné que Hitler aurait quitté cette région de l'Amérique du Sud, en particulier la Colombie, où il aurait rejoint l'Argentine en 1955, où apparemment il aurait vécu des années heureuses.
Ça, et c'est un rapport...
Ça, c'est un rapport qui vient de sortir, qui vient d'être rendu public dans les documents de la CIA. Et elle est un peu là, la pogne, je te dirais, Bernard. Parce qu'il faut savoir qu'entre 1945 et 1956, et le document dont je te parle date de 1955. Donc, entre 1945 et 1956, la rumeur de la survie d'Hitler était encouragée, sinon acceptée, par les autorités américaines. Comme je te l'ai mentionné, il y avait eu cette réunion où Staline avait dit à Roosevelt « Je ne sais pas si Hitler est mort au bunker. » En réalité, c'est faux. Dès le lendemain de la prise de Berlin, les troupes, l'armée rouge, avaient trouvé le corps d'Adolf Hitler et de Eva Braun. Les corps avaient été déplacés dans une maison qui était occupée par les services de renseignement russes, de l'ancienne Union soviétique à l'époque. Et il y avait eu une analyse dentaire qui ne laissait planer aucun doute sur le fait que les corps étaient celui d'Eva Braun et d'Adolf Hitler. Il y avait notamment un pont dentaire très particulier qui a été reconnu par l'assistant dentiste et le dentiste d'Hitler, et reconnu également par des photographies des rayons X de la tête d'Hitler. Je te rappelle qu'en juillet 1944, il y avait eu un attentat contre Adolf Hitler, une explosion, et à ce moment-là, on avait pris des radiographies de sa tête, et en particulier de sa mâchoire, et on voyait que c'était bien et bien les corps d'Hitler.
Mais c'était quoi l'intérêt des services secrets?
Les services secrets russes ont laissé courir ça. En fait, ils n'ont pas reconnu immédiatement qu'on avait les corps d'Adolf Hitler et de Braun, parce qu'on voulait voir quelles étaient l'étendue des services de renseignement américains. Il faut se rappeler que même à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, même s'il y avait eu une sorte d'entente entre les Alliés, il y avait quand même un bras de fer qui se jouait entre les Russes et les Américains. Et Staline voulait donner le moins d'informations possible. En 1956, il y a eu une commission d'enquête en Allemagne qui ont reconnu sans l'ombre d'un doute que Hitler était bel et bien mort au bunker. Et cette conclusion a été entérinée par les services de renseignement américains. Tu ne trouveras plus, à partir de 1956, aucun document qui fait référence à la survie d'Adolf Hitler dans les archives américaines, pour la simple et bonne raison que Hoover lui-même... Parce qu'il faut comprendre que les services de renseignement acceptent tout. Hein? C'est-à-dire que c'est un peu comme la survie d'Elvis. Là. N'importe qui peut appeler la CIA puis l'FBI et dire « J'ai vu Elvis à tel endroit ou à tel endroit, puis à mon avis, il est vivant. » C'est un peu ce qui s'est passé avec Adolf Hitler. Comme on n'avait pas de preuves, les médias entretenaient l'idée qu'il avait peut-être survécu au bunker, et plein de gens appelaient les services de renseignement pour dire « Je l'ai vu. Je l'ai vu dans un McDonald's, je l'ai vu à la gare, je l'ai vu ici, je l'ai vu là. » Et les services de renseignement, comme ils n'avaient pas d'ordre clair de leur supérieur, colligeaient l'ensemble de ces
renseignements. Ils rapportaient le renseignement.
Okay. Donc, c'est pour ça qu'on va trouver plein de documents entre 1945 et 1956 parlant de la survie d'Hitler, mais ce ne sont que des ragots et des rumeurs. En 1956, tout ça s'est arrêté parce qu'on avait enfin la preuve qu'Hitler était bel et bien mort au bunker.
Très intéressant, très intéressant. Parlons maintenant de ces étoiles. Les étoiles trop vieilles.
Trop, et ça, c'est vraiment surprenant.
Hey, écoutez ça, là, les auditeurs.
Je ne suis pas un spécialiste de l'astrophysique, mais c'est un truc qui vient de paraître dans le Forbes magazine, dans les pages de science. Et on appelle ça le paradoxe du Big Bang. Comme tu le sais probablement, Bernard...
Qu'est-ce que je suis supposé savoir?
L'âge de l'univers, c'est 13,8 milliards d'années.
13,8? Je pensais que c'était 13,5. Excuse-moi.
Oh, je vais te pardonner pour cette petite erreur. Donc, 13,8 milliards d'années. Et tu sais que la théorie qui, disons, tient le haut du pavé, c'est la théorie du Big Bang. Mm. Donc, l'ensemble de toute la matière qui existe dans l'univers aurait été amalgamée dans un centre et aurait explosé. Et c'est cette matière-là qui, aujourd'hui, formerait le contenu de l'univers. Alors voilà qu'en regardant des étoiles, les astrophysiciens ont une bonne connaissance de comment se développe et comment vit une étoile. Comment elle naît, comment elle vit et surtout comment elle meurt. Mm-hmm. Il y a plusieurs façons. Une étoile peut mourir en explosant. Elle va devenir une supernova. Elle peut s'effondrer sur elle-même, devenir une naine. Ou encore devenir une géante rouge. Donc, on connaît un peu l'évolution des étoiles. Or, en regardant très, très loin dans l'univers, on voit des étoiles, et quand je dis en regardant très loin, c'est quand même pas trop loin, on parle notamment d'une étoile qui est située à 190 années-lumière de notre système solaire, une étoile qui a le nom très exotique de HD 140283. Et cette étoile, quand on regarde son évolution, il semble qu'elle aurait 14,4 milliards d'années.
Oh oh.
Donc, presque un milliard d'années de plus que l'âge estimé de l'univers. Or, comment est-ce possible? D'où cet incroyable paradoxe. Si on accepte que l'univers est âgé de 13,8 milliards d'années, comment une étoile pourrait-elle être plus vieille que l'univers? Alors là, on doit revoir deux choses. Ou bien nous avons mal jugé l'âge de l'univers, ou bien les astrophysiciens doivent repenser à la vie d'une étoile. Peut-être qu'il y a des éléments qui feraient que certaines étoiles vieillissent plus vite qu'on le croyait. Parce que jusqu'à maintenant, on croyait que c'était un peu... Le vieillissement d'une étoile était un peu systématique, mais là, cette étoile-là semble dire ou bien j'ai vieilli plus vite qu'on le pense, ou bien j'existais avant le Big Bang.
Oh boy.
Alors, c'est un incroyable paradoxe.
Je suis soufflé.
Ouais, moi aussi, quand j'ai lu cet article-là, je dois t'avouer, je l'ai relu deux fois, parce que je me suis dit, écoute, il y a quelque chose qui fonctionne. Et c'est cet incroyable paradoxe où l'étoile semble en effet plus vieille que l'âge de l'univers.
Et je vous rappelle, mesdames et messieurs, parce que je sais que vous vous posez la question, parce que vous voulez absolument retenir ça, le nom de l'étoile, c'est HD 14-02-83.
Exact.
Écoute, il avait... ne jamais l'a vu.
Il y avait quelque chose, Bernard, qui m'avait un peu déjà surpris il y a 2 ou 3 ans. Tu sais que lorsque l'univers, si on accepte cette théorie du Big Bang, l'univers est en expansion. C'est un peu comme lancer un caillou dans une mare d'eau et là, on a un cercle qui va s'agrandir. Donc, en théorie, si on va au-delà du cercle, il doit y avoir le vide absolu. Il n'y a rien. Et pourtant, nos radiotélescopes actuels permettent de voir plus loin que là où se trouve la matière de l'univers. Et il y a 3 ou 4 ans, les astrophysiciens avaient annoncé qu'ils avaient capté un signal, une sorte de rayonnement au-delà de la matière. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir au-delà de la matière avant le Big Bang?
Aïe, aïe, arrête, là.
C'est quand même incroyable. Je pense que l'avènement des nouvelles technologies dans le domaine de la recherche scientifique nous permet d'avoir une vision tout à fait extraordinaire sur le monde et l'univers qui nous entoure.
C'est un questionnement troublant.
Absolument.
Non, c'est vrai. Sincèrement, là, c'est tout bon. Alors, on va s'arrêter, puis au retour, 100 000 $ pour un morceau de soucoupe volante.
Oui.
Hein, 100 000 piastres.
Prépare ton chèque.
Donc, de retour avec notre spécialiste des mythes et complots, Christian Page. 100 000 $ pour un morceau de soucoupe volante.
Oui. Toi, Bernard, est-ce que tu crois aux visites extraterrestres?
Non, pas du tout. Pas du tout. Mais je prendrais bien le 100 000.
Oui, tu crois aux 100 000 $?
Oui, je crois aux 100 000.
Un peu comme moi, d'ailleurs.
Oui, c'est ça.
Pour reprendre un peu une phrase célèbre dans Close Encounters, Rencontre du troisième type, oui. Tu n'es pas seul.
Non, bon. C'est ça. Oui.
Donc voilà, c'est un réalisateur de documentaires américain, un certain James Fox, qui s'intéresse beaucoup aux histoires d'extraterrestres, d'OVNI, tout ça. Et il est en train de préparer un documentaire sur le sujet. Et voilà qu'il annonce, il a annoncé il y a quelques jours, qu'il remettrait 100 000 $ à quiconque lui apporterait une preuve irréfutable de visite extraterrestre. Donc, on le sait, le phénomène moderne des ovnis ou des soucoupes volantes, comme on les appelait à l'époque, c'est né au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Les premiers récits, les premiers témoignages. Il y a eu des commissions d'enquête américaines sur le sujet dans les années 50 et 60 et jamais jusqu'à maintenant on est arrivé avec une preuve irréfutable d'une visite extraterrestre. Bien sûr, les gens voient et rapportent des choses dans le ciel qu'on ne peut pas expliquer. Ça, on l'accepte tous. Mais de prétendre que nous sommes visités par des extraterrestres, ça, il ne faut pas se le cacher. Les preuves sont très anémiques, sinon inexistantes. Alors, ce James Fox propose 100 000 $. Il dit, si quelqu'un a cette preuve, ben, qu'il me l'apporte et j'en serai heureux. Et il espère également que son offre va intéresser des gens qui auraient travaillé peut-être dans certains services de renseignement ou à l'armée, qui auraient peut-être vu de ces morceaux, de ces débris, et qu'ils auraient ces preuves encore chez eux. Alors, il propose 100 000 $ à quiconque pour offrir
bon,
ça.
Bon, écoutez, l'offre est lancée là, pensez-y.
Voilà.
Parlons des armes soniques.
Oui, je voulais revenir là-dessus parce qu'on en avait parlé il y a quelques semaines au cours de l'été. Enfin, à la fin de l'été, on avait abordé la question. Ce sont ces diplomates américains qui auraient été incommodés à Cuba parce que l'on avait évoqué peut-être une arme sonique. Je sais que tu en avais parlé également avec Loïc Tassé.
C'est très sérieux, là. Hein?
C'est très sérieux. Et là, maintenant, on apprend qu'au-delà des diplomates américains, il y a également un diplomate canadien qui est au nombre de ces gens-là. Et on a beaucoup évoqué les symptômes. Et les symptômes, il y a des migraines, il y a apparemment des lésions cérébrales, il y a même des problèmes d'élocution qui se seraient développés. Et là, donc, on en est maintenant à 20 victimes. Ce qu'elles ont, le point commun, le dénominateur commun de tous ces gens-là, c'est qu'ils travaillaient tous à Cuba. Ils étaient tous dans des postes de diplomates ou de hauts fonctionnaires. Alors, et on en parle depuis le début de l'été.
Non, c'est
un phénomène qui date du mois de mars.
Et Trump a évoqué la possibilité de fermer l'ambassade américaine à Cuba là, à cause
en
de
fait,
ça.
En fait, on a même renvoyé un ambassadeur cubain qui était en fonction aux États-Unis. On nous dit que il n'y a pas de lien, mais la coïncidence est quand même extraordinaire. Il a été renvoyé à Cuba. Et bien sûr, les autorités cubaines nient leur implication là-dedans. La nouveauté à ce sujet, et c'est pourquoi je t'en parle aujourd'hui, c'est que les services de renseignement, la CIA, ces gens-là sont allés voir des spécialistes d'armes acoustiques ou de ce genre de trucs, mm-hmm. notamment des spécialistes du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, qui tient un peu le haut du pavé lorsque l'on parle de trucs de ce genre-là, et eux rejettent la possibilité d'une arme sonique. Ils disent, il faut absolument chercher vers autre chose. Une arme sonique ne ferait pas ce genre de dégâts. Donc, on est vraiment en présence de quelque chose de différent, mais certainement pas une arme comme celle qu'ont évoqué les médias depuis le début de cette, entre guillemets, crise mystérieuse sur l'île de Cuba.
Donc, ce serait pas des sons,
ce serait autre chose. Il semble que ces diplomates, ces gens ont été ciblés volontairement parce qu'on ne trouve que des diplomates. Il n'y a pas de gens du civil, il n'y a pas des gens qui font partie d'un corps diplomatique qui est cubain. Ce sont vraiment que des diplomates américains et ce diplomate canadien maintenant qui s'est ajouté au nom. Donc, visiblement, des gens ciblés volontairement, mais la possibilité de l'arme sonique semble exclue pour le moment.
Christian Page, merci.
Ça m'a fait plaisir.
C'est toujours très agréable. Je remercie Alexandra Marcoux, Maryse Duchesneau et Larry Dufresne. C'est notre petite équipe qui travaillons très fort pour vous présenter cette émission. Merci à vous, les auditeurs, de votre fidélité. On se reparle, on se revoit lundi. Paul Aude s'en vient.